Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quelles que soient vos convictions et vos doutes, vos faiblesses et vos forces, quelle que soit votre histoire, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère. Nous nous présentons ensemble devant le Seigneur notre Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret liturgique qui est au début du psautier français, « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». De tout cœur éternel, nous te rendons grâce pour ton amour et ta fidélité. Tu fais grandir en notre âme une force. Nous te rendons grâce quand nous entendons les paroles de ta bouche. Oui, qu'elle est grande, la gloire de l'Éternel. Quand nous marchons au milieu des angoisses, tu nous fais revivre. C'est ton action qui nous rend vainqueurs. L'Éternel fait tout pour nous. Notre Dieu, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Donc c'est ce psaume 138 dont je viens de vous lire quelques extraits que je vous propose de chanter maintenant pour qu'ensemble nous commencions dans la louange. Donc le psaume 138, que tout mon cœur soit dans mon chant, les trois strophes.
Thank you.
pouvez prendre place. Alors, grand bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de culte. C'est une joie de se rassembler comme cela. Bienvenue en particulier à Madame Barbara Delamotte-Saint-Pierre qui a demandé à faire sa profession de foi ce matin. Alors, c'est pour nous une joie et un honneur de vous accueillir. Merci à l'organiste qui nous accompagne aujourd'hui pour nous aider à prier et puis à ouvrir notre cœur à quelque chose de neuf qui viendrait de Dieu. Alors c'est aujourd'hui le quatrième et dernier candidat au poste d'organiste titulaire. Vous pouvez donner votre avis sur son jeu, sur l'accompagnement des chants. Il y a des papiers qui sont sur l'urne, sur la table à la sortie, dans lequel vous pouvez marquer vos appréciations. Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, nous dit Jésus. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Voici ce que je vous dis, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Face à cet idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide, ce que je vous propose de faire avec ce psaume bien connu. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Mais le Christ nous a donné la certitude de la bienveillance pour nous, la bienveillance de Dieu pour nous, et nous pouvons le ressentir au plus profond de nous-mêmes. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En Christ, l'Éternel notre Dieu se penche vers nous et nous dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance.
Alors vous pouvez prendre place. Alors je vous accueille, bienvenue. Chère madame, c'est une joie, une grande joie pour nous de vous accueillir ici. Bienvenue à ceux qui vous accompagnent. Merci pour la fidélité de votre amitié, pour votre ouverture d'esprit de participer ainsi à ce culte, alors que vous n'êtes pas peut-être protestant. Donc c'est une belle marque d'ouverture et d'amitié. Alors je sais l'énergie que ça demande d'avancer, d'évoluer, de pousser des portes. Et donc c'est tout sauf une solution de facilité que d'évoluer ainsi. C'est la vie, c'est une sincérité, c'est un courage. Vous aviez cette conviction que Dieu nous veut libres et intelligents, m'avez-vous dit, et que cela demande une part de recherche personnelle que vous ne manquez pas de travailler, mais aussi que nous avons besoin des autres, nous avons besoin du rite pour cette démarche et que ça participe aussi à notre évolution sans pour autant perdre notre liberté et notre sincérité, car rien de ce que vous entendez ici, bien sûr, n'est obligatoire pour personne. Alors, cela aurait été dommage que vous perdiez ces qualités de liberté, de réflexion, de sincérité, tant vous avez une personnalité qui est riche, artiste. Peut-être que l'artiste, il est habitué à saisir ce qui est neuf, ce qui est beau, avec cette bienveillance particulière devant une réalité qui est diverse. Et puis, vous composez votre propre palette spirituelle, artiste, culturel, dimension, une palette spirituelle, culturelle, religieuse, philosophique, et c'est bien. Donc nous avons de la joie à vous avoir rencontré, et c'est pas très difficile de vous rencontrer, parce qu'en fait vous êtes là tous les dimanches au culte depuis octobre dernier, donc on vous a appris à vous connaître un petit peu, mais vous avez accepté de dire quelques mots sur votre parcours, alors ça permettra aux amis de la paroisse, peut-être d'apprendre un peu quelque chose de vous. Merci beaucoup.
Oui, bonsoir ou bonjour mes amis de l'oratoire. Je suis très émue, je suis Barbara de la Motte Saint-Pierre, d'origine et de confession catholique, comme vous dites, papiste. Mais figurez-vous que mes aïeux ont été huguenots, c'est très loin. C'est dans les années 1550, dans le Beauvaisis. Et puis, on a un peu fait le tour de la France. On est allé en Espagne. On a été obligé de se convertir au catholicisme. Et voilà, aujourd'hui, je reviens dans la confession protestante. Et j'ai demandé un rapprochement. J'ai intégré l'oratoire parce que j'ai été touchée à la fois par votre ferveur, par votre paix et par votre joie. Et je désire poursuivre une vie spirituelle au milieu de vous.
Alors, merci beaucoup pour ces paroles qui nous touchent et qui nous encouragent aussi à être peut-être sans cesse plus joyeux et fraternels. Alors, nous avons au cours de ce culte une confession de foi, c'est-à-dire c'est un petit résumé de croyances chrétiennes qui viennent un petit peu, j'allais dire, comme paraît-il que dans la chasse aux canards, on met des canards en bois dans les étangs qui attirent les canards sauvages. Donc cette confession de foi, c'est un peu de théologie que nous vous proposons pour attirer la conviction personnelle de chacun. Alors aujourd'hui, c'est vous qui avez écrit une confession de foi qui sera la confession de foi de notre Église, mais comme un encouragement pour chacun à avoir sa propre conviction, sa propre recherche. Donc je vous propose de vous lever pour vous associer à cette confession de foi chrétienne qui est celle de notre Église pour ce matin.
Je crois en Dieu, mon Créateur et mon Père, comme celui de l'humanité entière. Je crois en son Fils Jésus-Christ, envoyé sur terre par Dieu le Père, afin de nous apprendre à vivre dans l'amour. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver. Je crois en l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, qui nous inspire et nous donne la vie de l'âme. Ses dons sont multiples, force, sagesse, conseil, et j'en oublie. par sa grâce, par leur grâce, les trois personnes de la Trinité tiennent le monde en équilibre. Par la grâce, nous vivons. Et la joie peut nous dilater, nous consoler, nous inspirer, remplir notre cœur. Amen.
Grand merci. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place.
Nous lisons dans l'évangile de Matthieu.
J'ai encore quelques
petits mots. Tu as encore quelque chose à dire. Excuse-moi.
Barbara, vous avez reçu autrefois le baptême, signe de l'amour que Dieu vous a manifesté en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous sommes témoins de cette alliance qui vous lie personnellement avec Dieu. Dieu vous bénit et vous accompagne. Il vous donne sa lumière pour éclairer votre route. Il vous donne la paix par sa présence. Il vous donne d'être une bénédiction pour ceux qui vous sont confiés. Et pour cela, que le Saint-Esprit affermisse votre foi, qu'il vous accorde ses dons et qu'il vous les renouvelle jour après jour. La joie de l'Éternel sera votre force. Et vous nous proposez de chanter ensemble le cantique 204, « Seigneur, dirige et sanctifie », comme une prière pour tous les enfants que nous sommes, pour que nous soyons inspirés par notre Seigneur. 204, les deux strophes. Vous pouvez prendre place.
Vous pouvez vous asseoir. Et cette fois-ci, nous lisons dans Matthieu 21, les versets 28 à 32. Qu'en pensez-vous ? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit : Mon enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. Celui-ci lui répondit : Je ne veux pas. Plus tard, il fut pris de remords et il y alla. L'homme s'adressa alors au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit : Bien sûr, maître, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : Le premier. Jésus leur dit : Amen, je vous le dis, les collecteurs de taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous par la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Ce sont les collecteurs de taxes et les prostituées qui l'ont cru. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas eu de remords par la suite. Vous ne l'avez pas cru davantage. Nous chantons à présent le psaume 23, les trois strophes. Aide-nous, Seigneur, à être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Aide-nous à faire silence en nous pour que ta parole nous rejoigne là où nous sommes et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous avons écouté devienne bonne nouvelle pour nos vies. Dans l'évangile de Matthieu, cette petite histoire que nous venons d'arriver, d'écouter, excusez-moi, vous pouvez vous asseoir, vous n'allez pas m'écouter debout.
Il y a un jeu d'orgue entre les deux. Il y a un petit jeu d'orgue, Valérie.
Et puis il y a encore excusez-moi, je suis vraiment désolée, allez-y. Alors, je reprends, excusez-moi de m'être emmêlé les pinceaux. Donc, on est dans l'évangile de Matthieu, et Jésus raconte cette petite histoire de deux fils qui ont une attitude bien différente après son entrée à Jérusalem. Cette entrée dans l'évangile de Matthieu, elle est décrite par l'évangéliste comme ayant suscité l'enthousiasme des foules. Ensuite, Jésus va jusqu'à la cour extérieure du temple, où il va provoquer un incident qui perturbe le culte au temple, en empêchant en fait les vendeurs de vendre les animaux nécessaires au sacrifice. Et au moment où on entend cette histoire, que je vous ai lue auparavant, Jésus est au milieu de controverses avec les pharisiens et les scribes. Dans l'évangile de Matthieu, les pharisiens et les scribes sont deux types de personnages qui permettent à l'évangéliste de cristalliser l'opposition du judaïsme traditionnel du 1er siècle au mouvement que représentent Jésus et aussi Jean-Baptiste. Dans l'évangile de Matthieu, les pharisiens et les scribes, ce sont les théologiens de l'époque, ce sont ceux qui étudient les écritures juives, en particulier la Torah, et qui les interprète. Et ce sont aussi les adversaires impitoyables de Jésus. Le portrait de ces pharisiens et de ces scribes est noirci par Matthieu à cause du contexte dans lequel l'évangile est écrit et des problèmes que la communauté autour de Matthieu affronte. En effet, comme vous le savez, Matthieu compose son récit environ 50 à 60 ans après l'activité de Jésus en Galilée. Cette époque, les années 90-80, est une période agitée pour le judaïsme. Jérusalem et le Temple ont été détruits par les Romains quelques années auparavant, et les Juifs sont dans une période de réorganisation, justement parce qu'ils ont perdu l'une de leurs institutions les plus importantes, le temple. Le mouvement de Jésus, qui est convaincu que Jésus est le Messie et qu'il inaugure donc une nouvelle phase dans l'histoire d'Israël, fait partie de ces groupes qui réfléchissent à la meilleure façon de continuer les pratiques et les traditions juives après la chute du temple. À cause de ce contexte, il n'est par exemple pas étonnant que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, est présenté comme un nouveau Moïse. Si vous vous souvenez, au début de l'évangile de Matthieu, c'est le moment où on a l'histoire de la fuite en Égypte. C'est aussi l'évangile où Hérode s'oppose très fortement à la famille de Jésus. Et ça, ça correspond évidemment à l'enfance de Moïse. Et dans l'évangile de Matthieu, c'est aussi là qu'on a le sermon sur la montagne, où Jésus va monter sur la montagne, justement, et il va redonner la loi au peuple juif. Tous ces éléments construisent Jésus comme une nouvelle figure de Moïse. Dans ce contexte, c'est non plus pas étonnant, du coup, que Jésus soit présenté comme étant dans des controverses violentes avec les théologiens de l'époque, les pharisiens et les scribes. On est dans un conflit de la meilleure façon de comprendre la loi. C'est dans ce contexte, donc, que nous trouvons ce petit récit. Et au cœur des discussions entre Jésus et ses théologiens se trouve pour Matthieu la question de l'autorité de Jésus. La question de savoir qui est-ce qui représente correctement la volonté divine. Il s'agit au fond de savoir qui a une vision correcte du judaïsme de l'époque. Et pour l'évangéliste, il n'y a aucun doute, ceux et celles qui se mettent à la suite de Jésus représentent la meilleure compréhension du judaïsme. Cette petite histoire, donc, de ce père qui a deux fils, intervient au milieu de controverses quant à l'autorité de Jésus. Et elle sert, cette histoire, à affirmer la primauté de l'autorité de Jésus, son lien particulier avec le Dieu d'Israël. Elle sert à lui assurer à Jésus un certain statut dans le contexte des rivalités entre différents mouvements juifs après la destruction du Temple. Et une des spécificités du mouvement de Jésus à cette époque-là, ce qui le distingue, si vous voulez, d'autres courants du judaïsme à l'époque, c'est que pour Jésus, mais aussi pour Jean-Baptiste, il est nécessaire qu'il y ait un changement radical dans le peuple juif pour montrer sa fidélité au Dieu d'Israël. Il faut que le peuple juif se repentisse, change radicalement pour se mettre à la suite du Messie et pour témoigner de sa fidélité au Dieu d'Israël. Cette prédication de la repentance, si elle marque profondément le message de Jésus, elle n'est pas complètement nouvelle pour l'époque. C'est la même chose qu'on trouve, par exemple, dans le langage des prophètes de l'Ancien Testament. Sans cesse, ils demandent au peuple d'Israël de se repentir. Et c'est aussi évidemment présent dans les différents récits de tribulation du peuple d'Israël au désert pendant l'Exode. Dans notre passage qu'on a entendu auparavant, elle se retrouve dans le langage du remords. Le fils qui dit non, qui se rebelle, est pris de remords et finit par accomplir le travail demandé par son père. Alors, dans le contexte des controverses avec les pharisiens, je crois que ce texte n'est pas très difficile à comprendre. Il indique que ceux et celles qui accomplissent véritablement la volonté de Yahvé, la volonté du Dieu d'Israël, ce ne sont pas ceux et celles qu'on identifie traditionnellement comme tels. Ce ne sont donc pas les théologiens du judaïsme, mais c'est précisément ceux qui se mettent à la suite de Jésus, qui reconnaissent leur péché. C'est pour ça qu'on a la mention des collecteurs de taxes et des prostituées, qui auraient été vraiment l'incarnation du péché, si vous voulez, pour les juifs à l'époque. Donc ce sont ces personnes-là qui se mettent à la suite d'un petit groupe de juifs radicaux, à la suite de Jean-Baptiste, à la suite de Jésus, qui représentent réellement la volonté divine. Donc on a une histoire dans son contexte historique qui sert à établir la légitimité d'une communauté radicale au sein du judaïsme traditionnel. Mieux vaut être celui qui se rend compte qu'il a fait une erreur et qui accomplit quand même le travail demandé, que celui qui pense que de toute façon il a raison et n'a plus besoin de rien faire. Donc c'est clair pour l'histoire que le groupe autour de Jésus va s'identifier avec le fils qui dit non, et que l'histoire critique ceux qui acquiescent simplement à la volonté du Père, mais ne complète pas cet acquiescement avec des actes. Alors moi aussi, je me suis toujours identifiée avec le fils qui dit non et qui ensuite fait tout de même le travail demandé. Dans mon enfance, j'ai souvent bougonné et maugréé, mais ensuite je faisais généralement ce qui m'était demandé. Je ne pense pas que j'avais réellement un moment de prise de conscience qui m'amenait au remords, mais j'avais, disons, suffisamment le sens du devoir pour faire ce qu'on me demandait. Et même, je dirais, peut-être que ma maman ne serait pas d'accord, mais à la longue, j'en suis même arrivée à dire oui et ensuite à faire ce qu'on me demandait. Aujourd'hui, j'ai une fille de 11 ans qui me fait penser au premier fils. De manière générale, elle n'aime pas tellement le conflit. Elle aime faire plaisir. Elle dit oui, généralement, sans râler, sans maugréer, sans rancœur. Mais ensuite, il est assez rare que sa chambre soit véritablement rangée, ou ses devoirs faits, ou même que ses dents soient brossées. Et jusqu'à ce que j'aie cette expérience avec ma fille, cette parabole était assez facile à lire pour moi. Je me sentais justifiée dans mon identification avec le fils qui dit non. Bien sûr que c'est lui qui a raison. Bien sûr que ma façon de faire est la meilleure. Je savais ce que le texte voulait dire et que j'avais raison dans ma façon de le lire. C'est toujours un peu dangereux, ce genre de réaction, ce genre de certitude. Et aujourd'hui, à la lumière de l'attitude de ma fille, je lis cette parabole un peu différemment. J'essaye, au sortir de la frustration que l'attitude de ma fille provoque parfois en moi, de me mettre à sa place, de me mettre à la place de la fille qui dit oui, c'est-à-dire le moment d'avoir un peu plus de filles dans la Bible, et qui ensuite ne fait pas ce à quoi elle a acquiescé. Je la regarde, cet enfant qui ne fait pas suivre sa parole d'acte, avec les yeux pleins d'amour d'un parent, qui a envie qu'elle réussisse, qui a envie que son parcours dans la vie soit le plus paisible et le plus satisfaisant possible. Je la regarde avec les yeux d'un parent qui aime ses deux enfants avec le même amour. Et à la lumière de ce regard, je me dis comme elle est dure, cette histoire. Comme elle est dure cette histoire pour la fille qui ne sait pas dire non à ses parents, qui n'a pas envie de dire non et qui pourtant ne sait pas toujours comment faire ensuite pour agir comme il faudrait. À la lumière de ce regard de parent, ma perception du récit change. Je sais bien que ce n'est pas vraiment ce que le Jésus de Matthieu avait l'intention de dire. Pour la communauté de Matthieu, comme je le disais plus tôt, il importait de pouvoir montrer que ceux qui disaient oui, ceux qui semblaient représenter le choix logique, le judaïsme des autorités, ce choix n'était pas le bon choix. Il fallait plutôt se tourner vers une communauté minoritaire, composée de gens qui s'étaient repentis à la suite de Jean-Baptiste, puis de Jésus, et incarnaient un renouveau dans le judaïsme. Dans ce contexte, je ne pense pas que la communauté autour de Matthieu se souciait tellement de ceux et celles qui disaient oui et ne parvenaient pas ensuite à faire ce qu'elles avaient promis de faire. Mais voilà, aujourd'hui j'ai rencontré ma fille et ma perception sur cette histoire a changé. Aujourd'hui je pense à ceux et celles qui disent d'accord, ok, ça marche, qui promettent et qui se retrouvent ensuite incapables de se montrer fidèles à leurs promesses. Alors bien sûr, à la sortie d'une période électorale agitée, après l'expérience encore pas si lointaine de la présidentielle américaine l'année passée, avec les élections présidentielles et législatives françaises qui se terminent, les gens qui promettent et qui n'agissent pas abondent et n'ont pas vraiment bonne presse. Mais je me demande si cette histoire peut aussi nous inviter à réfléchir à ce personnage qui est éjecté de l'Évangile aussi vite qu'il y est entré, ce fils qui acquiesce à la volonté du Père, mais ne fait rien pour l'accomplir. Dans notre réception de ce récit ce matin, que pouvons-nous faire pour ce fils oublié et rejeté? Nous qui savons qui des deux est le meilleur frère, qui des deux a fait la volonté du Père? Comment pouvons-nous réfléchir avec ce frère rejeté? Déjà, il me semble important de dire que cette histoire qui force à choisir entre l'un des deux fils, qui nous place un peu dans la position d'un père qui aurait à dire lequel des deux fils il préfère, me dérange un peu. La parabole ne va pas exactement dans cette direction. Elle ne nous dit pas explicitement que le père préfère un des fils à l'autre. Elle explique simplement qui a fait la volonté du père et qui ne l'a pas faite. Et comme c'est une histoire, elle ne se préoccupe plus ensuite du destin des personnages. Pourtant, ce récit et l'évangile de Matthieu dans son ensemble ont eu des effets très destructeurs. Plus tard dans l'histoire de l'Église, quand on est sorti d'une dispute qui se produisait au sein du judaïsme, l'évangile de Matthieu, avec d'autres textes du Nouveau Testament, a permis aux pères de l'Église notamment, et à la tradition chrétienne ensuite, d'affirmer la supériorité du christianisme sur le judaïsme, de dire que désormais le peuple élu, c'était les chrétiens, qu'ils avaient réussi là où les juifs avaient échoué. Cette réception des textes du Nouveau Testament est extrêmement problématique, évidemment, et elle va contre l'ancrage historique de ces textes dans le judaïsme du 1er siècle. Elle découle en partie, du moins, du jugement qui est présent dans certains textes du Nouveau Testament, et notamment dans le récit de ses deux fils. Il y a un fils, en groupe, qui fait les choses de manière juste, et il y a un fils, en groupe, qui se fourvoie et qui sera condamné. Le but de cette histoire, on l'a compris, c'est le jugement. Comment peut-on réfléchir à cette histoire dans ce cas en essayant de sortir de cette logique de jugement, en essayant d'abandonner un schéma « eux contre nous » ? Comment peut-on lire ce récit en prenant au sérieux le fait que pour que l'Évangile soit une bonne nouvelle, ça serait mieux si c'était une bonne nouvelle pour tous et toutes ? Il me semble qu'une façon de réfléchir à cette autre lecture et de penser à ce personnage qui dit oui et qui ensuite abandonne. Comment faisons-nous pour l'aider? Je pense à ma fille et à ce que je pourrais faire pour changer un peu sa façon d'affronter les choses qu'elle n'a pas envie de faire. Je me dis qu'en premier, il faudrait lui permettre de dire non. La repentance, le remords dans l'histoire viennent en premier parce que le fils a pu dire non. Il faudrait pouvoir montrer au fils qui dit oui que le conflit, le fait de ne pas être d'accord, le fait de résister et même de râler, ne signifie pas forcément la fin d'une relation. Il est possible de partager ce qu'on ressent, ses colères, ses émotions et ses frustrations, et que la beauté d'une relation dans laquelle on a confiance, dans laquelle on place sa confiance, c'est qu'elle ne s'arrête pas avec la colère. Là encore, l'histoire d'Israël, qui précède et informe celle de Jésus dans l'évangile de Matthieu, offre des exemples. Combien de fois le peuple élu n'a-t-il pas protesté pendant son errance dans le désert ? Et pourtant, ces protestations et ces colères ne mettent pas en définitive en péril la relation avec Dieu. Parce que le Dieu de la Bible est d'abord un Dieu de fidélité. Il se montre fidèle à ce qu'il promet. Il s'engage dans une alliance qu'il ne va pas briser, même s'il a parfois besoin de Moïse dans le désert pour le lui rappeler. Cette fidélité, elle est du côté de Dieu, bien sûr, mais elle est aussi du côté des êtres humains. Quand on place sa confiance en Dieu, on fait justement confiance que nos actions, nos refus, nos hésitations n'interrompent pas la relation avec Dieu, qu'il y a toujours la possibilité de revenir vers lui, de se retourner, de changer. Il me semble que la bonne nouvelle de l'histoire que Jésus raconte, ce n'est pas notre sentiment de satisfaction et de devoir accompli à chaque fois qu'on a râlé et maugréé et qu'ensuite on a quand même fini par faire la vaisselle, sortir les poubelles, passer l'aspirateur et suspendre la lessive. Non, la bonne nouvelle de cette histoire, quand je la lis à la lumière du visage de ma fille, c'est qu'il y a un Dieu en qui on peut avoir tellement confiance qu'il y a des moments où on a même le droit de dire non. On peut protester, on peut refuser, on peut se mettre en colère, et pourtant la relation avec Dieu n'en est pas terminée pour autant. Pour moi, c'est la bonne nouvelle qu'il faut annoncer à l'enfant qui dit oui, qui a peur de décevoir et qui se trouve incapable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut dire non, et dans ce non, il trouvera peut-être justement la force de faire ce qui semblait impossible à faire. Cette force ne vient pas du sens du devoir ou d'un sentiment de culpabilité, mais elle est là parce qu'il ou elle a en face d'elle un Dieu qui ne se décourage pas, un Dieu qui n'interrompt pas la relation, un Dieu qui attend, bien plus patiemment qu'un parent humain d'ailleurs. Si Dieu est le parent de cette histoire, il est un parent qui dépasse nos représentations humaines, qui ne se lasse pas devant nos refus et nos limites, qui ne choisit pas entre ses deux fils, mais qui aime, qui persévère et qui prend le temps d'apprendre à l'enfant qui dit oui, qu'il est parfois permis et possible et peut-être véritablement salutaire de dire non. Amen.
Un grand, grand merci donc à Valérie Nicolet pour cette prédication aussi intéressante au point de vue existentiel, spirituel, personnel dans notre relation à Dieu que dans l'intelligence en fait de la lecture de l'exégèse du Nouveau Testament. Alors effectivement Valérie, tu es professeure à la faculté de théologie protestante du boulevard Arago en Nouveau Testament. Et c'est vrai que cela donne envie de reprendre donc, des études de Nouveau Testament avec toi. Vous aurez le texte de sa prédication à la sortie. Alors ensuite, je voudrais endosser toute la responsabilité du psaume 23 que nous avons essayé de chanter donc, avant la prédication Effectivement, il existe deux traditions pour les chanter ce psaume 23, une qui est dans le petit recueil bleu, une qui est dans le nouveau recueil psautier français, avec une mélodie qui est difficile à chanter dans le psautier français, donc j'avais confiance dans l'assemblée pour que les personnes suivent l'orgue, et c'est vrai que certaines personnes ont décidé de suivre plutôt les notes. Normalement, il faut suivre l'organiste, qui est le patron, c'est le seul moyen de chanter ensemble. Enfin bref, c'est ma faute si j'ai mis ce cantique un petit peu piégeux, et donc je vous remercie de ne pas tenir compte sur l'organiste de ce psaume 23, et que maintenant, en chantant le psaume 150, ben je pense qu'on a plus de chances de chanter ensemble les trois strophes donc de « À toi la gloire » que Barbara de la Motte-Saint-Pierre nous propose de chanter maintenant. Vous pouvez prendre place. À la sortie, nous avons la chance d'avoir donc un moment fraternel dans la grande sacristie derrière la porte, avec tous mes remerciements émus pour l'équipe qui, voilà, le deuxième et le quatrième dimanche, nous prépare ce temps de partage délicieux, accueillant, et qui permet voilà, d'échanger un peu entre nous. Demain, lundi, à 19h15, le groupe d'hébreu biblique Apprentissage avec Christophe se réunira donc en face à la maison presbytérale. Jeudi, à 20h30, ici même, il y a un concert du chœur de l'oratoire qui s'appelle « Paix et lumière » avec Félix Mendelssohn. Donc le psaume 42, Christus, et puis d'autres pièces donc de Mendelssohn. Alors, C'est un concert qui est payant. Vous pourrez acheter des billets le soir même. Je crois que c'est de l'ordre de 20 euros. C'est vrai que c'est des concerts qui coûtent cher à organiser, bien sûr, avec des solistes, avec un orchestre. Mais c'est vrai que je pense que ça sera un très beau concert. Dimanche prochain, ici même, il y a le culte. Et puis maintenant, eh bien, c'est le moment de l'offrande. Offrande pour que l'Église puisse exister, puisse annoncer l'Évangile, puisse accompagner chacun dans ses baptêmes, dans les mariages, dans les obsèques, dans ses parcours de vie, quelle que soit la ressource de chacun. Je vous invite à vous unir dans la prière avec cette prière pastorale d'Elred de Rivaux. Seigneur, tu connais mon cœur et tu sais que mon désir est de donner aux autres tout ce que tu m'as apporté à moi, ton enfant. Je veux me dépenser moi-même pour eux de grand cœur. Que mes sentiments et mes paroles, mes loisirs et mon travail, mes actions et mes pensées, mes réussites et mes difficultés, ma vie et ma mort, ma santé et mes infirmités, tout ce que je suis et tout ce que je vis, ce que je sens et ce que je comprends, que tout leur soit donné, puisque tu n'as pas refusé toi-même de te donner pour nous tous. Apprends-moi donc, Seigneur, à moi ton enfant, sous l'inspiration de ton esprit, à me donner à eux et à me dépenser pour eux. Donne-moi, Seigneur, par ta grâce, de supporter leurs faiblesses avec patience, de compatir avec bonté et de les aider avec discernement. Que j'apprenne à l'école de ton esprit à consoler ceux qui sont affligés, à redonner du courage à ceux qui n'en ont pas assez, à relever ceux qui tombent, à me sentir faible avec les faibles, à m'indigner avec ceux qui s'indignent, et à me faire tout à tous afin de les aider un peu. Mets sur mes lèvres des paroles droites et justes, afin que nous grandissions tous dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, dans la ferveur de l'esprit et du cœur. Je les remets entre tes bonnes mains et je les confie à tes tendres soins, que personne vraiment ne les arrache à ta main, qu'ils persévèrent joyeusement dans leur désir de sainteté et qu'en persévérant, ils vivent une vie plus forte que la mort grâce à ton secours, Seigneur. Et unis dans une même foi en toi, nous nous unissons du cœur à cette prière que le Christ nous a confiée et qui fait de chacune et de chacun de nous des frères et des sœurs, des fils et des filles du même Père, de la même Mère que nous avons aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu pour nous-mêmes la porter aussi à ceux qui nous entourent. Bénédiction qui est donnée au singulier dans les paroles de Moïse au livre des Nombres. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, t'accompagne. Que l'Éternel fasse briller sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, demeure par ta grâce avec chacune et chacun de nous, ô Dieu Sauveur.